voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Ils se déplacent lentement, toujours en groupe. Ils poussent des râles sinistres et veulent manger les vivants. Les zombies sont aujourd'hui partout, dans les bandes dessinées, dans les jeux vidéo, dans les séries et bien sûr au cinéma. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
À l'approche de Halloween, tous les cinémas du monde a voulu se pencher sur cette figure chérie par tous les cinéphiles à l'occasion de la sortie d'un film formidable, Zombielennium. Bonjour Arthur de Pince.
Bonjour.
Bonjour Alexis Ducor.
Et bonjour.
Et vous êtes les auteurs de ce film d'animation formidable, La guerre des classes revisitée entre vampires et zombies, entre autres, dans un parc d'attractions, film inspiré de vos albums Arthur de Pince. Bonjour aussi à notre spécialiste S-Zombie, Alexandre Poncet.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, nous parlions avec vous, Gremlins et Dents de la Mer, à l'occasion de la sortie de votre documentaire Le Complexe de Frankenstein. Il était bien naturel que vous veniez, que vous reveniez dans tous les cinémas du monde par les zombies et Zombielennium. Dans cette émission, on se demandera pourquoi le zombie se porte si bien, comment il a réussi à passer de la marge au mainstream, y a-t-il de bons zombies et au final, sommes-nous tous des zombies? C'est la question que pose au fond votre film Zombielennium. Je le disais, la lutte des classes revisitée dans un parc d'attractions entre zombies et vampires.
Papa, je voudrais aller à Zombielennium.
Oui, c'est promis.
Je jure.
Si je mange, je vais en enfer. Allez, travaille bien.
Je peux vous aider?
Mais fais peur, c'est mon job.
Vous aviez pris rendez-vous?
Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste.
C'est mon job.
Maîtresse, est-ce que ça existe, les morts vivants?
Ce type est un humain et un contrôleur qui plus est, Ekerpi.
Lucie, tu as fini de faire ton intéressante.
Monsieur Sachs, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous?
Dissac, c'est un loup-garou.
Dissac, c'est un vampire.
C'est un quoi?
Bonjour à tous. Je vais trouver des investisseurs chez les humains. Vous avez 15 jours pour rendre ce parc le plus effrayant qui soit. Alors, faites...
Alors, on revient rapidement sur l'histoire, le pitch, hein, comme on dit, de Zombielennium. Hector a une petite fille, il est contrôleur des normes, il veut fermer un parc d'animation. Et Illico, le directeur du parc, le transforme en zombie. Et donc, Hector va découvrir la lutte des classes entre zombies, vampires, loups-garous, l'exploitation du monstre par le monstre, hein, pourrait-on dire. Mm-hmm. Comment ça vous est venu, cette idée, Arthur de Pince?
Eh bien, en fait, tout est parti d'une couverture que j'avais fait pour le journal de Spirou. En 2008, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais déjà de la bande dessinée, mais pas du tout dans le domaine des monstres. Ça, c'était plutôt un domaine que j'affectionnais quand j'étais adolescent, puis que j'ai laissé tomber peu à peu au sortir de mes études. Et en faisant cette couverture avec toute cette galerie de monstres, je me suis replongé dans cet univers que j'aimais beaucoup, parce que j'aime beaucoup les monstres, en fait. C'est pas plus que la peur elle-même, mais vraiment les monstres en tant que personnage.
Dessiner des monstres.
Voilà, c'est ça. C'est dessiner des monstres, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Et c'est plus intéressant de dessiner un monstre ou un humain?
Ah bah un monstre, absolument. Enfin, parce que c'est un monstre quelque part est un peu un humain. Enfin, peut-être qu'on y reviendra. Enfin, c'est un peu philosophique comme propos, mais disons que cette fameuse couverture m'a fait replonger comme ça dans cet univers. Et le Frédéric Niffle, le rédacteur en chef de Spirou, m'a proposé carrément de reprendre ces personnages pour tester. Enfin, m'a proposé d'en faire un album. Donc, c'est devenu Zombielennium 1. Alors, j'adore les monstres, mais je voulais pas seulement me limiter à un scénario où les monstres sont méchants, les humains sont gentils et les uns essayent de bouffer les autres, etc. Je me suis posé la question de savoir ce que feraient tous ces monstres, donc les vampires, les loups-garous, les zombies, s'ils vivaient maintenant parmi nous, dans notre société. Et la réponse qui m'est venue, c'est forcément, ils travailleraient comme tout le monde pour payer leurs impôts. Voilà. Et alors, après, je me suis demandé, alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme travail? Et je me suis dit que le seul travail, finalement, qu'ils pourraient faire pour être, en étant à visage découvert, ce serait permettrait de travailler dans un parc d'attractions, ce qui leur permettrait de côtoyer les humains sans que ces derniers leur balancent des pierres et des fourches à la figure. Donc là, le principe du parc d'attractions Zombielennium est né. Et puisque c'était une entreprise, eh ben, je me suis dit que, bah, il faudrait qu'il y ait un patron, un DRH, un directeur du personnel, etc., et des syndicats, évidemment. Et puis, petit à petit, l'analogie entre les vampires qui sont un peu les, voilà, les C++, et puis les zombies qui, eux, sont plutôt les travailleurs, bah, tout ça est venu un peu naturellement. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu une fable qui parle du monde du travail, mais qui utilise des monstres pour parler de tout ça.
Et vous, Alexis Ducor, vous êtes arrivé à quel moment sur le film ?
Moi, je suis arrivé un peu plus tard sur le film, mais je connaissais le travail d'Arthur parce qu'on est amis depuis longtemps. Donc, j'avais vu faire la bande dessinée. J'ai suivi le premier, le deuxième, le troisième tome. Et quand il m'a parlé de l'adaptation de Zombielennium en film avec Henri Magallon, le producteur, qui est un ami aussi. Bon, moi, j'étais tout de suite très intéressé. Et au bout de quelques versions du scénario, je me rappelle, Arthur avait pris le scénario en main tout seul. Il m'a dit ah bah tiens, tu veux pas me donner ton avis sur le scénario ? Ce que j'ai fait, puis. Puis du coup, il m'a dit, bah allez, c'est bien, c'est intéressant, viens, on l'écrit ensemble, viens, on va s'amuser ensemble avec tous ces personnages.
Et c'est facile, ou difficile, mais c'est facile de trouver des financements pour un film d'animation donc familial, sur quand même un univers où, a priori, on n'attend pas un public familial pour aller voir des zombies, des vampires.
Alors ça, là, on doit dire un grand merci à notre producteur, Henri Magallon, parce que c'est lui qui a réussi finalement à convaincre tout le monde, enfin tous les partenaires du film, de financer finalement ce film. Alors évidemment, il existait la BD, donc qui paraît aux éditions Dupuis, qui a évidemment un peu aidé parce que c'était la preuve que qu'un public enfant peut aimer les histoires de monstres. Alors c'est vrai qu'en animation, c'est un peu plus rare. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient en tête, mais y en a, hein, évidemment.
Alexandre Poncet.
Récemment, il y a eu Hôtel Transylvanie 1 et 2.
Ah oui, bah voilà.
Et Paranorman, l'étrange pouvoir de Norman du studio Laika, qui a été fait en animation image par image. Est-ce que ça a été au sujet à discussion ? Est-ce que ça vous a aidé justement à trouver le financement ?
Je pense que sans ça, on n'aurait pas pu produire Millennium. Ouais. Voilà, Hôtel Transylvania, ça peut rassurer les producteurs. Et vu le succès du film, les producteurs français peuvent se dire « Ah bah tiens, on peut essayer quand même de changer un peu les codes de ce qu'on voit en animation grâce à dans les films d'horreur. » Et aussi, on a quand même eu la chance du contexte actuel de l'animation en France. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je sais pas si on aurait pu produire ce film. On faisait quoi ? On produisait peut-être un film tous les 2 ans. Et là, depuis quelques années, on est à 5 longs métrages français par an. Donc voilà, on a vraiment eu la chance d'arriver au bon moment, avec une histoire qui plaisait, avec les albums d'Arthur sous le bras pour convaincre les éventuels investisseurs. Donc c'est vrai, on a eu de la chance, on est arrivé au bon moment avec le matériel qu'il fallait pour faire ce film.
Il y a eu des choses qu'il vous a fallu gauchir pour que ce soit un film qui s'adresse, comme disait Sophie, un vrai film familial. C'est-à-dire, il y a une double lecture. Hein. On peut avoir une lecture marxiste, entre guillemets, de votre film. Et en même temps, ça s'adresse complètement aux enfants. Et c'est un vrai film de divertissement.
Alors, en fait, ce principe, finalement, était déjà présent dans la BD. D'ailleurs, pour la BD, même au tout début, je voulais faire une sorte de The Office avec des monstres. C'est-à-dire que ça parlait uniquement de l'entreprise. Et puis, naturellement, peut-être parce que ma fibre, c'est devenu finalement une BD d'aventure. Et en fait, ce principe, qui soit à la fois de l'aventure, mais à la fois aussi avec un tout petit sous-texte social, évidemment, on l'a réutilisé dans le film. Parce qu'en fait, d'expérience, dans Spirou, on reçoit beaucoup de courriers des lecteurs, et en particulier d'enfants, je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants comprenaient aussi tout ce sous-titre qui parle du monde du travail. En fait, les enfants comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Alors, certains peuvent ne voir que le côté aventure, certains ne verront peut-être que l'histoire de ce papa qui veut retrouver sa fille, mais je pense sincèrement que beaucoup d'enfants aussi comprennent justement toutes les histoires liées à l'entreprise, parce que tout simplement ils en entendent parler chez eux, ou ils entendent les infos, j'en sais rien. Donc alors il s'agit pas du tout de faire un film militant ou de faire ou politique, mais enfin du moins de donner quand même une toute petite impulsion sur la réalité qu'est le monde de l'entreprise, et bien sûr sans être rébarbatif, hein, ça reste quand même avant tout
c'est
un film.
C'est pas rébarbatif du tout, mais c'est quand même un peu noir, parce que par exemple, quand la grille d'entrée, c'est le fac-similé quasiment de la grille d'entrée d'Auschwitz.
Alors ça, j'avais pas pensé. Mais oui.
C'est un peu impressionnant.
Ça, c'est oui,
c'est un peu un camp de zombies aussi. Ils sont enfermés là, ils peuvent pas sortir.
C'est vrai que c'est une prison. Par contre, ça, c'est vrai qu'il y a un côté carcéral au sein de ce. Bah oui, parce qu'ils ont pas le droit de sortir, ce qui pose d'ailleurs problème à Hector, au héros. Mais c'est vrai que c'est assez. Il y a une noirceur en fait, en tout cas dans le film, tout comme dans la BD. Voilà, ça se passe dans le nord de la France. Il y a un côté très industriel aussi, puisque le parc est une ancienne mine. Donc ça montre évidemment une réalité qui est de base pas très jolie.
Et les premiers zombies, d'ailleurs, ce sont des mineurs qui sont morts dans un coup de grisou.
Tout à fait.
On le voit dans l'animation, une sorte de prologue, dans le générique du début.
Ouais, voilà, tout à fait. Donc c'est comme si en fait Zombielium c'était une sorte de prolongement de l'époque industrielle en fait. Voilà. Et ça, cette idée justement de mine, elle n'est pas présente dans la BD, mais c'est en faisant un repérage photo avec Alexis et notre chef déco dans le Nord qu'on a visité une mine et donc qu'on a été effaré de voir que la mine en fait ressemblait à mort à Zombielium avec ses deux tours comme ça, et c'est devenu finalement tout complètement évident qu'il fallait que ce soit une ancienne mine, puisqu'en plus il y a l'ascenseur qui descend jusque dans les enfers, etc. Donc
et c'est un peu par hasard qu'on a découvert ça, et ça collait parfaitement au scénario.
Et alors, question sans doute un peu naïve, mais question à tous les trois, c'est quoi la différence, parce qu'on parle beaucoup de ça dans votre film Zombielium, c'est quoi la différence entre un zombie et un mort-vivant?
Le zombie est quand même, si je peux
dire, Alexandre, pensez.
Le zombie est connoté, donc renvoie à la culture vaudou. Donc c'était des morts-vivants, c'était quand même une sorte de transe. Le mort-vivant, en fait, l'idée du mort-vivant vient au niveau du cinéma de George Romero, qui a réalisé La Nuit des Morts-Vivants. À l'époque, il ne parlait absolument pas de zombies.
En
1968, quand le film est sorti, d'ailleurs, il ne nommait pas ces morts-vivants. Les morts-vivants étaient une sorte de masse uniforme, et en fait, il piégeait les humains, parce que plus les humains mouraient, plus il y avait de morts-vivants, donc de composants dans cette masse. Et il y avait une sorte de mystère autour de ça, qui était encore plus angoissant. Ensuite, les gens qui ont vu La Nuit des Morts-Vivants ont commencé à appeler ces morts-vivants des zombies. Et quand George Romero a fait la suite Dawn of the Dead à la fin des années 70, le producteur européen, en fait, le coproducteur européen Dario Argento, a voulu appeler le film Zombie. Mm-hmm. Donc depuis, on ne parle plus que de zombies. Mais George Romero n'a jamais parlé
donc
vraiment de zombies.
Donc c'est quoi, zombie? C'est presque une étiquette marketing, en fait.
C'est devenu un nom facile à transmettre, en fait. Et effectivement, au niveau marketing, c'est facile.
Et alors, les morts vivants, c'est des vivants qui vivent aux limites de la mort, ou c'est des morts qui reviennent?
Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, est-ce qu'il y a une âme dans cette histoire?
Surtout que les morts vivants peuvent inclure les vampires aussi, par exemple.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mort, mais qui continue à se mouvoir et à parler. Et donc, c'est vrai que c'est une vaste question qu'on ne s'est pas trop posée, mais voilà.
Trying to tell me that the voodoo priest could cure Mrs. Holland?
Better doctors.
Dambala, this woman is ill.
This is the ceremony of voodoo death, a ceremony that seeks the life of the woman who lives forever, who walks with the dead.
Extrait de Vaudou de Jacques Tourneur. En 1943, il revisite le film gothique, en l'occurrence Jeanne Eyre, avec ce personnage de jeune infirmière engagée pour s'occuper de la femme d'un riche planteur. Et l'infirmière va s'apercevoir que celui-ci a été envoûté, que celle-ci a été envoûtée par des rites vaudou. Alors avant Alexandre Poncet, il y avait eu beaucoup de films de zombies. White Zombie, par exemple, avec Bela Lugosi. Là, on atteint une autre dimension avec Tourneur.
Ah, déjà dans le côté expressionniste de la chose, oui, Tourneur était connu quand même pour ça. On était quand même loin vraiment de la vision du zombie tel qu'on l'a actuellement. C'était encore très respectueux de je parlais de la religion, voilà, on était encore très respectueux de la culture classique. Ensuite, quand les films de Romero sont arrivés, on a vraiment changé de culture. Il y a eu le contexte social qu'on retrouve dans Zombielium, qui est arrivé progressivement dans le genre, même assez rapidement avec La Nuit des Morts-Vivants. C'était moins politique, le Tourneur. Le Romero est devenu plus politique.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film de Tourneur, justement, on a cette figure du zombie qui est quand même une allusion directe aux esclaves dans les plantations de canne à sucre.
Mais
est-ce
oui.
que ça veut dire que la politique va se déplacer peu à peu? On va passer d'une vision du zombie esclave au zombie prolétaire tel qu'on le voit dans votre film Arthur et Alexis, Zombielium.
Après, ils reprennent le pouvoir, oui.
Oui, mais c'est un peu la suite logique. On déplace un peu ça, un contexte un peu plus actuel avec ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment la masse laborieuse. C'est littéral même dans le film. On essaye vraiment de séparer les vampires qui sont plus aux manettes du parc, aux manettes du pouvoir, et les zombies qui sont la masse et sont exploités, on va dire, par les autres et avec tout ce que ça peut amener. Ouais.
Est-ce qu'il y a un canon du zombie, parce que vous jouez avec Arthur Depin, Alexis Ducorre, sur le zombie qui doit marcher lentement, qui a les mains devant lui, qui a quasiment des yeux inexpressifs, des yeux de mort, parce qu'il n'est pas censé avoir une âme. Est-ce qu'il y a un canon à respecter?
Ça dépend en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école classique de Romero, on y revient toujours, avec le mort-vivant très lent, et donc qui avance en masse. L'idée de masse est super importante parce qu'il n'y a plus d'âme unique. Il y a une sorte de comportement collectif et qui est donc un piège qui se referme autour des protagonistes humains et des survivants qui sont de moins en moins nombreux. Ensuite,
c'est un virus,
exactement avec le remake le zombie qui est sorti dans les années 2000, mais un petit peu avant avec 28 jours plus tard de Danny Boyle, on a commencé à avoir des zombies. Et des infectés, parce qu'il y a une nouvelle vague de zombies qui sont des infectés, ils ne sont pas morts, mais ils ont la rage ou des choses comme ça. Là, ils courent. Ils sont hystériques, ils oublient qu'ils ont des raideurs dans le corps, et ils foncent vers les héros qui sont obligés de courir. C'est hérité quand même d'une nouvelle forme de cinéma d'action qui est forcément un petit peu plus agressive. Moi, personnellement, je trouve ça moins flippant d'avoir une masse de zombies qui courent plutôt qu'une masse qui, même en avançant lentement, arrive à atteindre sa proie.
C'est super. Enfin, moi, j'aime bien quand même ce film, 28 jours plus tard, mais c'est vrai qu'on perd l'essence un peu du zombie et de la symbolique qu'elle peut avoir. J'arrive pas à trouver un sens à ces zombies qui cavalent.
Mais vous, ce qui est formidable, c'est que dans votre film, le zombie va s'allier avec une jeune vampire, Gretchen, et qui va profiter. Une jeune sorcière. Et qui va profiter des deux, c'est-à-dire que il va profiter de la vitesse du balai de la sorcière. Donc il va allier les deux vitesses, lui. Il est à la fois très lent et en même temps, un espoir de métissage dans votre film.
En fait, oui, c'est vrai que nous, les monstres, de toute façon, dans Zombielenium, enfin les zombies en particulier, c'est pas qu'ils courent, c'est pas qu'ils marchent, ou en fait, ils sont exactement comme nous, c'est-à-dire que voilà, ils sont. Alors si ils adoptent ces comportements-là, j'ai envie de dire classique, de mettre les bras en avant mais uniquement quand ils sont dans leur attraction, parce que c'est ce qu'on attend d'eux, et quelque part, c'est quelque part des zombies assez old school. Et par contre, une fois que la journée de travail est finie, ils se rejoignent, ils vont jouer au flipper, ils vont discuter. À la machine à café, etc. Donc voilà, ce sont des zombies qui jouent aux zombies, quelque part.
Oui, mais il reste quand même, on les voit en tant que, dans le local syndical, ils sont tranquilles, même s'ils ont des revendications, ils jouent aux cartes, doucement, ils sont pas tellement super actifs.
À part Sirius, peut-être. Enfin, c'est vrai qu'ils sont tous un peu différents.
Oui, mais en plus, vous jouez d'une vision intermédiaire entre les zombies qui marchent lentement et les zombies qui courent. Vous jouez du côté comédie musicale de Thriller.
Oui, alors c'est ça. Alors, je suis un gros fan de Thriller. Hein. Franchement, je voulais
donc
pas
de
du
Michael
tout.
Jackson,
de
hein,
Michael
le,
Jackson.
Le clip.
Et alors, on n'a pas eu les droits de Thriller. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas eu, c'est qu'on n'a même pas essayé. Mais du coup, on a tourné ça en dérision, en blague dans le film. Quand Sirius dit oui, non, on n'a pas eu les droits. Voilà. Du coup, ils ont mis une espèce de pseudo Thriller à la place. Et c'est ce que dit Hector. Il dit votre attraction, on n'a pas de succès, mais vous ne faites que répéter ce qu'on voit depuis 50 ans avec des zombies. Donc le film porte vachement là-dessus aussi, sur la vision qu'on a des vampires, des zombies, de tous ces monstres. Et il y a aussi évidemment cette critique, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais de ces nouveaux monstres qu'on voit fleurir, en particulier les vampires très glamour, comme on peut les voir dans les films comme Twilight. Donc
D'ailleurs, il ressemble un peu à Robert Pattinson.
Ah c'est complètement assumé.
C'est
complètement assumé. Et c'est sur la tendance qu'ont ces différents genres de monstres, et ce que montre aussi cette tendance sur la société. Et quelque part, nous, c'est un peu ce qu'on a voulu faire aussi, c'est une sorte de plaidoyer qui dit rendez-nous nos monstres visqueux, dégueulasses, mais néanmoins extrêmement sympathiques, plutôt que de nous flanquer ces vampires qui n'ont plus rien de monstrueux.
Tous les cinémas du monde ont fait une entracte, le temps du flash d'actu, et on se retrouve dans 3 minutes pour parler de l'histoire des zombies au cinéma, de la renaissance du zombie en 68, forcément, et puis bien sûr du père des zombies, George Romero.
Et après, qu'est-ce qui se passe alors ?
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
bienvenue dans cette deuxième partie de Tous les cinémas du monde avec nos invités, nos trois invités, Arthur Depin, Alexis Ducor et Alexandre Poncet. Alors on ne serait pas réunis hein, tous les cinq autour de cette table sans un petit film fauché, tourné en 68 en noir et blanc par un jeune cinéaste américain d'origine cubaine, George Romero. Ça s'appelle La nuit des morts vivants. On en écoute un extrait, puis la voix de George Romero. C'était sur France Inter en 2008.
Ils sont de plus en plus nombreux. Allez, tu vises bien la tête entre les deux yeux. Au carton. Ça va, allez-y, il est mort, allez le chercher et vous pourrez aussi le foutre au feu.
On pourrait remplacer les zombies par n'importe quel désastre, un tsunami par exemple. Les zombies sont vraiment mon dada. Je les trouve très drôles et j'adore ce genre. J'ai grandi dans les comics et j'en ai écrit quelques-uns. J'aime travailler ce genre, mais j'aime aussi penser que je peux exprimer des idées et faire des observations grâce à lui. J'ai toujours senti qu'au final, ils incarnent un grand changement qui affecterait le monde. Et ce sont toujours des histoires humaines. Les méchants sont toujours des hommes. Les mauvais comportements viennent toujours des humains. Il s'agit de savoir dans les films comment on répond ou pas à ces problèmes, ou si on y répond de manière stupide. C'est le modèle qui a toujours été à la base de mes films.
Et voilà, on ne pouvait pas faire cette émission sans rendre hommage à George Romero, disparu en juillet dernier. Romero qui dit « ce sont toujours des histoires humaines et les méchants ». Ce sont toujours des humains, c'est ça, Alexandre Poncet ?
Totalement, et il dit quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, les zombies ne sont qu'un contexte, quand il dit que c'est la manière dont les gens répondent. À chaque fois, il se pose des questions sur la décennie en cours. Donc dans les années 60, c'est le racisme. Dans les années 70, c'est la société de consommation. Dans les années 80, en plein air Reagan, c'est le militarisme et aussi le pouvoir laissé aux scientifiques. Il a sauté les années 90 parce qu'il n'a pas eu les financements. Dans les années 2000, il a fait un film sur des armes de destruction massive et des gens qui vivent au milieu de, qui se terrent au milieu de buildings géants, donc avec Land of the Dead. Donc fin des années 2000, début des années 2010, il fait Diary of the Dead, qui est un film sur la manière dont Internet remplace le journalisme classique, mais en fait reproduit les mêmes erreurs. Et ensuite, il a fait Survival of the Dead, son dernier, qui est une comédie, en fait, et qui est aussi exceptionnel. Moi, j'ai un respect éternel pour ce monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer une fois et qui était l'homme le plus gentil du monde.
Donc en fait, le zombie colle toujours à l'actualité.
Ah, toujours chez Romero.
Ce qui n'est pas le cas du vampire, qui lui est plutôt une histoire derrière lui.
Les vampires collent au mode. Le zombie colle à l'actualité. C'est comme ça que je le vois en tout cas.
Et les loups-garous ?
Ah bah allez, ça va, colle à l'évolution des effets spéciaux.
Et pour Zombilennium, le zombie, c'est quoi ? C'est la métaphore aussi du chômage de masse ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, Zombilennium parle justement des tendances qu'ont tous ces monstres, parce que Zombilennium regroupe évidemment tout un bestiaire, plein de catégories de monstres différents. En tout cas, au début du film, les zombies ne font pas tellement recette. Alors que le parc a été créé pour eux, mais il n'attire plus grand monde parce que voilà, au contraire, les spectateurs, surtout les spectatrices, sont complètement galvanisés par ce beau Steven qui est le vampire, qui est un peu la star du parc et qui du coup menace d'ailleurs projette de ne faire un parc qu'avec des vampires. Et ce qui voudrait dire évidemment le licenciement de tous ces pauvres zombies et être licencié à Zombilennium, c'est aller en enfer, puisque Zombilennium appartient évidemment au diable. Donc on a cette espèce de conflit entre différents types de monstres, mais principalement les zombies et les vampires, les uns voulant évidemment garder leur place, étant d'ailleurs défendu par Francis, qui est le directeur, qui est un vampire mais qui est un bon directeur et qui veut vraiment que chaque monstre ait sa place. Et malheureusement, la tendance est on va dire, la loi du marché fait que ça va être assez difficile pour eux.
Il est formidable, ce personnage de Francis, parce que c'est un bon vampire.
Oui.
Il n'a pas l'élégance, le côté cap, pourpre du vampire. Visuellement, vous l'avez conçu d'une façon très particulière.
Ah oui, oui, en fait, il est... Effectivement, c'est pas le beau vampire romantique tel qu'on peut se l'imaginer. Il a de l'embonpoint, il a la soixantaine, il a les cheveux grisonnants, etc. Mais néanmoins, il a une classe à lui, bien à lui. C'est un peu un patron à l'ancienne, c'est-à-dire c'est lui-même d'ailleurs qui a créé ce parc, et il se soucie surtout du bien-être de tous ses employés, quels qu'ils soient. Et évidemment, il se méfie comme de la peste de justement des fluctuations, des aléas justement de la loi du marché. Et c'est vrai que le parc est en passe en plus d'être racheté en partie par des humains, et les humains évidemment font confiance plutôt à aux tendances du moment, et ce qui pourrait justement coûter l'emploi de tous ces zombies.
Et oui. Hector, ouais. Donc le héros de Zombilennium, mais c'est un zombie ou pas? Parce qu'il est très particulier, il est hybride. Il peut ressembler d'ailleurs un peu à Hellboy.
Il ressemble aussi à la créature de Legend de Ridley Scott, créée par Rob Bottin.
Des cornes plus petites.
Oui. Des cornes plus petites, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça.
Oui, oui, de toute façon, tous les personnages de Zombilennium sont des clichés de... Enfin, je veux dire, Francis ressemble un peu à Christopher Lee dans Dracula. Hector a des petits airs de Hellboy. C'est vrai qu'ils correspondent à l'idée qu'on se fait tout bêtement de ce que sont les monstres. C'est vrai que je suis pas allé chercher très loin. Je me suis plus penché sur au niveau de leur aspect, sur est-ce qu'ils ont des rides, de l'embonpoint, comment ils sont habillés, plutôt que de réinventer carrément le genre, quoi. Mais Hector, alors, pour répondre à votre question, effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est, et en fait, je peux le dire puisque ça intervient plutôt au premier tiers du film, il devient une sorte de démon cornu. Et c'est là où le spectateur et lui-même se rendent compte que quand on est embauché à Zombilennium, on devient à l'image de ce qu'on était dans notre vie d'avant. Et Hector, c'était un type qui faisait un boulot quand même pas terrible. Il s'occupait de faire couler des usines pour pouvoir ensuite revendre les terrains. Il trempait un peu dans un boulot pas terrible. Et il voulait d'ailleurs faire fermer Zombilennium. Et en fait, par conséquent, une fois monstre, c'est sa vraie nature qui se révèle, et il devient un peu comme Dorian Gray, il devient une espèce de monstre horrible, l'image de ce qu'il était avant. Mais paradoxalement, c'est en devenant un monstre qu'il va se bonifier.
Et vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas parti de zéro. Enfin, vous avez beaucoup revu de films de zombies.
Alors,
avant de partir sur Zombilennium.
À vrai dire, pas
la
tellement.
Bande dessinée.
J'ai jamais été un énorme fan, à vrai dire, de films de monstres ou de films de zombies, sauf quand il y a un second degré, en fait. Comme il peut y en avoir dans Zombieland, comme il peut y en avoir aussi, par exemple, dans un autre film. Alors là, c'est des vampires, mais un film que j'adorais, qui est Morse, qui est sorti il y a une dizaine d'années, ou je sais pas. Où là, c'est un film de vampires, mais qui parle aussi de ça se passe en Suède, dans une banlieue un peu désaffectée, et c'est une très belle histoire d'amitié. Voilà, quand on les films qui utilisent les monstres pour vraiment parler des humains, mais en fait, en disant ça, je réalise que c'est le cas de tous les films de monstres, de toute façon. Donc, voilà.
Il y a quand même quelques petites références très subtiles, parce qu'on a, moi, j'ai beaucoup de tendresse aussi pour ces films de monstres, notamment ceux de Romero dans Day of the Dead, notamment sur la musique. De temps en temps, on a une petite touche très 80s quand on arrive dans le parc à la fin. On a des effets sonores, comme au début du film, quand il parle, il crie dans l'hygiaphone, il cherche « Hello !» et tout ça. Et j'adore ce son. Et je pense que, alors, le plus jeune public va pas s'en rendre compte, mais un public plus adulte, de remettre les mêmes effets sonores, ça va le ramener quelque part aussi dans ce style de cinéma. Il va s'y sentir peut-être un peu à l'aise. Il va remettre ses pieds dans des charentaises en voyant Zombilennium.
Ce que vous allez voir dépasse toute espèce de logique. Et change les perspectives du monde qui nous entoure.
Je crois que quand quelqu'un meurt, il peut revenir.
Camille est revenue.
Ça va, maman ?
Moi, j'étais à ton enterrement. Je t'ai vu dans ton cercueil.
Je te fais peur ? Moi, je me fais peur.
D'après nos fichiers, vous êtes mort.
Vous connaissez Adalberter ?
Si tout le monde connaît son histoire. Son fiancé est mort le jour de son mariage.
Extrait des Revenants, la série écrite par Emmanuel Carrère, inspirée d'un film de Robin Campillo. Alors ça, Les Revenants, c'est presque la revisite de la figure du zombie, parce que pour le coup, c'est des...
Oui, parce qu'ils ont une conscience, contrairement aux zombies de cinéma.
Est-ce que c'est un marqueur dans l'histoire
En tout cas, c'est une série qui a compté et qui compte à l'international, parce qu'il faut savoir que Stephen King, donc le plus grand auteur d'horreur au monde, est absolument fou de cette série. Donc, il y a une résonance dans ces œuvres qui ont suivi. Donc, oui, c'est une série importante. Donc, Cocorico.
Cocorico. Absolument. Est-ce que vous, ça vous a inspiré?
Alors, revenant, j'ai trouvé ça. J'ai vu que la première saison, mais j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, parce que en fait, là, quand on regarde un film de zombies, on en vient à se poser parfois des questions très physiques, genre mais qu'est-ce qu'ils ont comme entrailles, qu'est-ce qui les fait marcher, qu'est-ce qu'ils mangent. C'est des questions qu'on se pose pas avec Les Revenants, parce que pendant toute la série, on se demande s'ils existent vraiment, ou si c'est finalement pas, c'est ma petite théorie, mais si c'est pas finalement une projection de l'imaginaire des gens encore vivants, finalement une espèce de message un peu poétique sur finalement les morts, ils nous quittent jamais, quoi.
Ça remet de l'émotion.
Oui, fait. Voilà, c'est vraiment comme ça, basé très sur l'émotion.
Comme vous avez mis beaucoup d'émotions dans Zombielennium, puisqu'on ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est quand même aussi l'histoire d'une relation père-fille.
Oui, absolument.
Hector, en fait, a perdu sa femme et il est obligé d'élever tout seul sa petite fille Lucie. Mm-hmm. Et que, effectivement, au moment où il est kidnappé, entre guillemets, dans ce parc d'animation, elle va se retrouver orpheline.
Oui, c'est vrai que le personnage de Lucie, c'est assez amusant, parce que c'était au départ, c'est aussi un personnage qu'on n'a pas écrit tout de suite, qui est arrivé un peu plus tard dans le scénario. Au départ, c'était, on avait besoin de que Hector ait une raison de quitter le parc, qu'il soit pas seulement, tiens, j'ai envie de m'évader, mais qu'il soit, une petite fille dont il s'occupait mal. Et en fait, finalement, en créant Lucie, ça a déroulé plein de fils de narratifs qui étaient très intéressants. Et puis surtout, on s'est vachement attaché à Lucie.
C'est en mourant qu'Hector va devenir un bon père.
Exactement, en fait. Voilà, tout à fait.
Et au niveau de dans cette relation père-fille, on a vraiment voulu la mettre en parallèle, parce qu'il y a deux histoires en parallèle de relation père-fille, entre aussi Gretchen, la sorcière, et son père. Et c'est une relation un peu différente, mais là, c'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte qu'on a voulu aborder. Et tout Zombielennium, tout le film, on parle de ça, de la métamorphose. Notamment Hector, on en parlait tout à l'heure. Et c'est, on se demandait ce que c'était comme monstre. Et c'est un peu l'adolescence aussi. C'est vraiment, physiquement, il se passe ce qui peut se passer chez un adolescent quand il se cherche encore un petit peu jusqu'à grandir vraiment physiquement plus tard dans le film. Et donc, on veut parler de ça, de ces métamorphoses.
Est-ce que vous comprenez pourquoi souvent le film de mort-vivant parle de la famille ? Parce que tout à l'heure, on écoutait un extrait du film de Romero, La nuit des morts vivants. Et effectivement, c'est l'histoire d'un frère et de sa sœur qui se retrouvent la nuit dans un cimetière pour aller sur la tombe de leur père. Ils sont attaqués par des zombies. Dans votre film, la famille, elle est aussi très très importante, y compris, vous le disiez tout à l'heure, Alexis Ducor, la famille recomposée de la fin avec Gretchen. Est-ce que vous comprenez pourquoi le zombie appelle cette figure de
familiale? À la base, il y a une raison pragmatique, c'est-à-dire que la pire situation qui puisse arriver dans un film de zombie, c'est qu'un membre d'une famille soit infecté. Avoir des gens qui tirent sur des zombies, c'est facile, mais avoir des gens qui doivent tirer sur un membre de leur famille qui est en train de changer, c'est un dilemme impossible. Et il y a une scène de la nuit des morts vivants où un père est face à sa fille qui est devenue morte vivante, qui est terrifiante et bouleversante à cause de ça. Je pense qu'à la base, c'est vraiment une raison scénaristique, un enjeu scénaristique important.
Il y a aussi dans Walking Dead, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de la popularité. C'est cette série américaine qui compte bientôt une 8e saison, je crois, à l'automne. Il y a aussi des scènes, des séquences très gore, notamment avec un accouchement, où un fils doit quand même tuer sa mère.
Oui, ils ont vraiment chargé au niveau violence. Moi, j'ai un petit problème avec Walking Dead, c'est que justement, au niveau politique, je trouve pas ça assez dense. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire de survie, c'est très bien comme genre, le film de survie ou la série de survie, mais sur cette saison, je sais pas si c'est nécessaire d'aller jusque-là. Après...
Non, mais en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis. Si on parle de zombies, les zombies, ça reste un contexte pour raconter une histoire autour. Et c'est un contexte intéressant qui va exacerber les situations. Mais voilà, ça reste un fond.
On reste dans la société.
Voilà, c'est l'idée.
petite pause musicale dans tous les cinémas du monde. On ne quitte pas l'univers des morts vivants et des zombies avec Moon Guy Zombie.
Comme la porte au rond bien silencieux, cerné par le cri des zombies dans le vent furieux, je viendrai te chercher sous le feu. Les morts vivants n'ont qu'à saigner un peu. Ô toi, l'animal de nuit, zombie, tu n'es pas destiné à te déguiser. Ô toi, l'animal de nuit, sacré, tu n'es pas destiné à te
justement, Arthur Depin, Alexis Ducor, Alexandre Poncet, je vous pose la question à tous les trois. Il y a toute une chorégraphie. On a l'impression que le zombie appelle naturellement la chorégraphie, un peu comme le vampire d'ailleurs, sauf que c'est pas du tout la même.
Hein. Oui, non, c'est
Arthur Depin.
On a évidemment fait un petit hommage à Thriller dans le film, parce que je pense que c'est quand même culte, hein, Thriller. Ça dure 20 minutes. C'est probablement le clip le plus connu au monde. On pouvait pas passer à côté, en fait. Il y a même d'ailleurs un personnage qui ressemble un peu à Michael Jackson, voilà. Mais c'est vrai que le zombie, c'est vraiment typiquement un monstre qu'on imagine danser parce qu'il est un peu désarticulé et parce que aussi, alors chorégraphie, parce que on en parlait tout à l'heure, les zombies c'est une masse. Donc c'est vrai que autant le vampire est plutôt un individu solitaire, autant le zombie, finalement, c'est presque logique de les voir tous faire les mêmes pas de danse et sur la même musique, quoi.
Il y a un film que j'aime beaucoup au niveau de la manière dont les zombies bougent, c'est L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, qui est une suite officieuse, non autorisée de zombies, de Romero. Et c'est vrai que la manière dont ils avancent est très hypnotique, en fait. Et il y a ce côté, la mort qui vient vers vous, il y a le côté hypnotisant de... Et je trouve ça assez fascinant à voir. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la manière dont vous avez soigné toute l'animation du film. Vous avez utilisé une animation qui est héritée du jeu vidéo, je crois. C'est un petit peu du cel shading, c'est-à-dire que c'est entre la 2D dessinée à la main et l'image de synthèse, mais on est dans un entre-deux. Mmh. Mais par contre, l'animation est extrêmement soigné dans tous les mouvements. Donc, voilà, je voulais dire merci
là-dessus, parce que on transmettra aux animateurs. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait du super boulot.
Mais il faut y voir, surtout par rapport à votre question sur la danse, on a eu la chance aussi d'avoir Arthur qui, de l'autre côté de la planète,
pendant 5 minutes, nous a filmé. Fait un moonwalk.
Non, mais il nous a fait une petite danse. Il s'est filmé tout seul avec son téléphone portable pour nous envoyer la référence de la danse des zombies pour Zombielenium. Ça nous a fait beaucoup fait rire. Non, c'est
bien amusé. Oui, parce qu'on peut pas écrire ou dessiner la danse. Il faut se filmer. J'avais pas d'autre choix. Au début, j'essayais d'expliquer. Alors d'abord, il lève le pied. Ensuite, il sautille. Ensuite, il met ses bras comme ça. Bon. Donc, il existe effectivement une vidéo. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Où je danse pour effectivement la scène où ils sont en train de faire leur chorégraphie.
Et vous êtes adepte de tout c'est pas péjoratif hein, ce que je vais dire, mais de tout le folklore autour des zombies. Est-ce que vous faites des zombie walks, toutes ces choses qui ont commencé à s'épanouir dans les années 2000?
Des zombie walks, oui, des zombie walks, on en a fait. Alors notamment, c'était pour la sortie du tome 3 de Zombielenium. Il se trouve qu'à l'époque, je faisais partie d'une batucada et on a décidé de faire une batucada de zombies. C'est-à-dire qu'avec tout mon groupe, on s'était déguisé en zombies. Alors, c'était une bonne idée. La moins bonne idée, c'était au Salon du Livre de Montreuil, dans un énorme hangar. Donc, tout le monde se bouchait les oreilles tellement ça faisait du bruit. Mais c'est vrai que c'était vraiment rigolo. Et puis, dès lors qu'on était déguisé en zombie, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tout le monde jouait le jeu. Tout le monde marchait. C'est là où finalement, le zombie qui marche encore debout jour devant lui, c'est que le réflexe était de marcher, d'avoir la tête sur le côté, d'avoir les membres complètement raides. Et il y a vraiment un côté terrifiant, mais surtout un côté vraiment, vraiment amusant, quoi. En tout cas, ça faisait rigoler les gamins.
Vous, Alexis Ducor, le moonwalk?
Non, je ne vais pas le faire, mais pour venir à l'animation, c'est vrai que c'est très intéressant d'animer un zombie, parce qu'on est tout le temps dans le déséquilibre, et tout le temps dans la recherche de l'équilibre, et il va tomber d'un côté, se rattraper au dernier moment, repartir dans l'autre sens, et c'est un plaisir, c'est un bonheur
pour
les animateurs. C'est comme un enfant, mais c'est ça. Et on a animé, d'ailleurs, pour le pilote du film, on a essayé de faire une animation sur une gamine, et ça marche, et tu sais plus quand c'est la gamine qui marche, ou quand elle se projette en zombie.
C'est comme une marionnette, en fait.
Oui, tout à fait, c'est une marionnette cassée, en fait, et qu'on prend plaisir à triturer, à faire tomber et se rattraper au dernier moment. En animation, c'est aussi intéressant que d'animer, par exemple, un type ivre, ou alors un bébé qui essaye de se mettre debout mais qui retombe sur ses mains. Ça, c'est vrai que c'est assez fascinant. Ouais.
Et vous pensez que c'est ça qui fait le côté complètement transgénérationnel du zombie? Parce que c'est vrai que, par exemple, enfin, je sais pas, Thriller de Michael Jackson, c'est le début des années, c'est 82.
Oui,
je pense.
C'est ça, ouais.
Et aujourd'hui,
83, ouais.
Et aujourd'hui, on voit des enfants de 5, 6, 9 ans qui dansent là-dessus.
Mais il faut savoir que Thriller, quand c'est arrivé en France, ça a été présenté par Michel Drucker. Pour vous dire à quel point c'était grand public. Et ça a été présenté, donc, à la France entière, dans une émission spéciale de Michel Drucker. C'était quand même assez incroyable. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose qui reste dans les familles, très important. Et c'est grâce à Thriller qu'aujourd'hui, on a des livres pour petits-enfants, 3 ans, de zombies. J'en ai vu.
Et vous en avez acheté à vos enfants?
Non, pas encore. Mais je les emmènerai voir Zombielennium.
Est-ce que ça vit dans la jungle?
Non.
Dis-leur que ça vit dans...
Est-ce que ça court très vite?
Non.
Est-ce que ça vit dans les grandes plaines africaines?
Non.
Qu'est-ce qui se passe? Bougez pas, les filles.
Est-ce que vous avez reconnu cet extrait?
World War Z, avec Brad Pitt.
Ouais, énorme succès commercial de 2013. Et est-ce que c'est le moment où la courbe s'inverse, c'est-à-dire où c'est un peu la chute du vampire incarné par Twilight et le revival, si je puis dire, du zombie?
Non, je pense que c'est le moment. Par contre, c'est un tournant parce que c'est le premier blockbuster de zombies. C'est un film qui a coûté très très cher, entre 100 et 150 millions de dollars. On parle d'un très très gros budget sur des zombies. À l'époque de George Romero, c'était totalement insensé. D'ailleurs, il y a eu des décennies où on ne voyait plus un film de zombies. Avant les années 2000, avant la sortie successive de 28 jours plus tard, Resident Evil et quelques autres comme Land of the Dead de Romero, on ne voyait plus de films de zombies. C'était même un genre ringardisé. On vouait un culte secret, très underground, très très niche, en fait, à ce genre-là. Et aujourd'hui, on a donc des films comme World War Z qui montrent des armées de zombies qui courent sur le mur des lamentations, avec des scènes d'effets visuels qui ont coûté des millions par plan. Et ça, c'est assez incroyable. Et en plus, c'est un film qui est sorti dans une version grand public, pas gore, et qui ensuite parce que ça a été remonté. Mais ensuite, il y a eu une version plus sanglante en vidéo, mais c'est vrai que c'est pas la même approche.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça a marché à ce point?
Parce que justement, la figure, au fur et à mesure, je pense que les analystes hollywoodiens l'ont bien compris, la figure du zombie est devenue très très commerciale grâce aux jeux vidéo.
Je parlais
du film Resident Evil, mais c'est adapté d'une série de jeux vidéo qui a eu un succès considérable. Et donc, qui a appris aux gens à s'intéresser, en fait, à la figure du zombie. Mais aussi, on a commencé à mettre des termes bien identifiables sur chaque créature. Il y a plusieurs créatures dans Walking Dead. Il y a plusieurs types de zombies. Chacun a son nom. C'est plus facile pour vendre des figurines après.
Après, c'est les groupes humains différents les rôdeurs, les marcheurs.
C'est comme Twilight, hein, ou comme Harry Potter. Il y a des noms bien précis pour chaque chose. Et donc, le mystère disparaît. Et donc, dès l'instant où le mystère disparaît, le zombie devient grand public.
Et le zombie a un créateur, en tout cas dans Zombielennium. Là, on sait qu'il y a quand même Lucifer, qu'on ne voit pas dans Zombielennium, mais qui est quand même le créateur. Donc, il y a quand même une dimension, une transcendance.
Ah bah c'est le Big Boss, en fait. C'est le diable. Alors, il a un nom dans la BD, mais dans le film, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages, on s'est contenté, en fait, de l'appeler le diable. Et en fait, on ne le voit pas. On ne le voit qu'à travers des flammes à chaque fois quand il s'adresse à des gens. Et c'est le propriétaire des âmes, finalement, de tous ces... De, tous ces monstres, toutes ces créatures qui sont damnées. Donc là, effectivement, ça colle effectivement à l'idée de hiérarchie avec tous ces monstres où il y a différentes castes, et puis il y a évidemment le diable. De toute façon, je vois pas qu'il pourrait y avoir au-dessus du diable. Peut-être un autre diable encore plus fort, je sais pas, mais effectivement, oui, il y a un grand patron. Oui.
C'est le président du conseil d'administration, en fait.
Voilà, le diable, c'est ça. Hein. Exactement.
C'est
voilà.
Une belle métaphore. Ouais.
Et, mais il y a une théorie, pardon. Il y a une théorie dans Zombie de Romero, à la fin des années 70, où il y a un prêtre qui apparaît au début du film et qui dit, qui avance une théorie comme quoi il n'y a plus de place en enfer, donc les morts viennent marcher sur Terre. Donc c'est un petit peu. C'est un petit peu votre
version. Ouais, ouais, ouais.
Merci à tous les trois. Arthur Depin, Alexis Ducor, merci.
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 Et votre film Zombilennium est en salle depuis mercredi. Merci à vous, Alexandre Poncet. On rappelle le titre de votre documentaire formidable, Le complexe de Frankenstein. Formidable cadeau pour Halloween.
Merci.
Et puis, il faut signaler aussi cette exposition sur les effets spéciaux à laquelle vous avez, je crois, contribué.
Tout à fait.
En ce moment participer. Même, à la Villette, à Paris.
Oui, pour montrer aux familles comment on crée des trucages au cinéma.
Si vous voulez en savoir plus, il y a une grosse actualité, un zombie en ce moment, mais si vous voulez en savoir plus, en lire plus sur les zombies au cinéma, on vous conseille aussi la lecture du livre d'Ozzy Ingwanzo, paru aux éditions Webeck. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Samedi prochain, on parlera d'un premier film Jeune femme de Léonore Serrail, Caméra d'or au Festival de Cannes en mai dernier. Et d'ici là, bonne semaine à tous.